Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Patrimoine, rendez-vous patrimonial chaque mercredi pendant une petite heure. Vous commencez à en avoir l'habitude. On aborde de multiples sujets qui touchent à de nombreuses facettes de cette gestion de patrimoine. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Quand on pense gestion de patrimoine, on aborde assez facilement la fiscalité. On prend aussi en compte, bien évidemment, les questions économiques et on passe assez rarement à côté de l'aspect civil. Mais on oublie souvent un quatrième axe, celui de la prévoyance. Et cette prévoyance, on va le voir, peut se cacher, je mets des guillemets, dans l'immobilier. Et on en cause avec Albert Dantoire. Bonjour Albert.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous sur Radio Patrimoine, directeur général adjoint de Nalo. Pourquoi faire rimer justement, finalement, immobilier, crédit immobilier, on va dire, et ce mot de prévoyance?
Alors justement, le lien est osé, mais finalement assez simple. Lorsque vous faites un crédit, vous avez une assurance crédit. Je souligne qu'il n'est pas obligatoire légalement. C'est les banques qui la rendent obligatoire. C'est-à-dire que si vous refusez une assurance crédit,
alors on n'a pas le crédit, mais on n'est pas obligé.
Le crédit. Voilà, donc c'est simple. Cette assurance crédit, elle sert à quoi? Elle sert à couvrir ce qu'il vous reste à devoir en cas d'interruption de travail, décès, handicap et je ne sais quoi, tout ce qu'on ne souhaite évidemment à personne. Alors pourquoi est-ce qu'on dit finalement acheter un bien immobilier, il faut s'endetter? Première règle, le lever de la dette, classique, que tout le monde connaît. Mais pour ceux à qui ça fait un peu peur, vous savez, la dette, il y en a qui disent oui, mais c'est-à-dire que tous les mois, il faut que je rembourse une somme,
je suis en risque,
qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, une fois qu'on a réussi à les persuader un peu du côté financier, c'est-à-dire du levier financier, on peut tenir le bon bout quand on parle de la prévoyance. Parce qu'en fait, finalement, s'endetter avec l'assurance crédit, c'est de la prévoyance. Je vous donne un cas pratique. Vous avez 300 000 euros en cash sur votre compte en banque. Héritage, vente d'un bien, n'importe quoi. Vous dites, bon allez, je vais acheter un studio à Paris, à Lyon ou je ne sais trop où et je vais mettre un locataire dedans, ça va aller très bien, etc. Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous brûlez les 300 000 euros, vous achetez le bien, vous êtes content, tout va bien. Prenons un autre cas. Plutôt que de prendre ces 300 000 euros et de les verser pour acquérir ce bien, mettez-les sur un compte qui vous rémunère, quel que soit le PEA, l'assurance vie, livret, n'importe quoi. Endettez-vous et faites une assurance crédit avec. Si vous décédez demain, le bien il est remboursé grâce à l'assurance crédit et en plus, il y a les 300 000 euros à côté. Vos héritiers vous diront merci. Au lieu d'avoir juste un bien qui vaut 300 000, ils auront 600 000, si je schématise un peu.
Malgré tout, on peut se demander si, vu les taux de crédit, vu les prix de l'IMO, vu les questions d'inflation, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai envie de vous dire, c'était presque logique, mais aujourd'hui, on a tous ces aspects-là qui rentrent aussi en ligne de compte, non?
En effet, il y a tous ces paramètres-là. Il faut savoir qu'en 2 ans, le taux de crédit pour une durée de 20 à 25 ans est passé de 0,8 à 4. En gros, il a quadruplé, quoi. On se dit, bon, oui, alors peut-être que votre message là, de s'endetter, l'assurance crédit, la prévoyance, c'était bien quand j'empruntais à 1% sur 25 ans, mais là, à 4%, c'est quand même 4 fois plus cher. Ouais, c'est-à-dire que limite, je vais peut-être payer, il faudrait faire le calcul, mais j'ai peut-être payé plus d'intérêt que le prix de l'acquisition. D'accord, mais n'oubliez pas, encore une fois, pour se construire un patrimoine, déjà, il y a plusieurs facettes, comme vous l'expliquiez très bien en introduction, et encore une fois, l'assurance crédit, est-ce que vous imaginez juste? Vous empruntez de l'argent, si vous arrive quoi que ce soit demain, alors selon l'assurance crédit que vous prenez, il y en a qui sont un peu moins flexibles, d'autres, il y a plus de cas qui rentrent dedans. Puis faut savoir que pour aller quelqu'un qui est trentenaire, 35, 40 ans, une assurance crédit, 0,12% en délégation, 0,12%.
Oui, parce qu'on rappelle, ça fait partie du combat de pas mal de professionnels de ce secteur, des courtiers, etc., qui se sont battus des assureurs alternatifs pour que ce qui était encapsulé, on va dire, dans le prêt immobilier et très verrouillé par les banques, c'est totalement libéralisé. Et aujourd'hui, on peut même en cours de contrat changer parce que d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on paye trop cher et qu'on pourrait payer moins cher ailleurs.
C'est ce qui s'appelle la concurrence. La concurrence libre. C'est-à-dire que là, je vous donnais les taux à peu près 0,12 en délégation, 0,25 en banque. Aujourd'hui, si vous, donc, j'invite tous les téléspectateurs à aller bien voir toute leur assurance crédit et de faire challenger ça par des courtiers ou par d'autres banques. Vous pouvez réduire la note divisée par 2, par 3, selon tout un tas de critères.
C'est vrai que souvent, on fait miroiter des sommes à 5 chiffres, ce qui est vrai,
oui.
Mais c'est au bout du crédit. Hein, c'est
exactement,
pas
tout à fait.
À l'instant T, vous pouvez partir en vacances avec.
Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Par exemple, pour les prêts de moins de 200 000 euros, on ne vous demande plus de questionnaire de santé. Là où, en effet, ça pouvait être un frein, vous avez une santé fragile, vous avez je ne sais trop quoi qui fait que...
L'âge qui commence à venir,
etc. En dessous de 200 000 euros d'emprunt, clairement, on peut acheter plein de trucs hein, à moins de 200 000 euros comme investissement de locatif. Il y a quand même un champ des possibles assez énorme. Plus de questionnaire de santé. Donc, encore une fois, je dis souvent, s'endetter, c'est de la prévoyance, voire c'est la meilleure parce que il n'y a pas d'indexation à l'inflation.
Le oui, parce taux... que j'allais vous dire, vous parliez de concurrence. Là, on était dans cette assurance emprunteur, mais il y a d'autres produits assurantiels qui couvrent la prévoyance et qui pourraient aussi faire écho à une stratégie.
Bien sûr, alors...
Ceux-là souffrent de l'inflation.
Bah, toutes les professions libérales qui nous regardent ont, pour leur grande majorité, je l'espère, une prévoyance. Souvent d'ailleurs dans les entreprises on en a, mais souvent le salarié il le sait pas trop parce que c'est un peu automatique avec son contrat de travail, il y a des obligations légales, etc. Quelqu'un qui est en profession libérale, qui est dans son cabinet d'avocat, dans son étude de notaire, médecin, boulanger ou je ne sais trop quoi, il prend la prévoyance s'il a envie de la prendre. Hein. Oui, en vrai, il n'est pas obligé. Donc j'espère que la majorité des gens qui nous regardent.
Et d'ailleurs, on leur dit faites-le.
Faites-le, voilà. Mais la prévoyance pour de la dette, le taux. Il vous est donné le jour où vous contractez l'emprunt, c'est compris avec, quoi. Il ne va pas bouger. Alors qu'on sait très bien que les primes des assurances, et vous le vivez avec l'assurance habitation, avec l'assurance auto,
ouais,
avec n'importe quoi, les prix montent ou baissent, en tout cas bougent, selon l'évolution des marchés, des risques, etc. Là, il est fixe, donc autant en profiter. Et encore une fois, la prévoyance que vous prenez, on va dire la prévoyance classique, elle va vous verser de l'argent en cas de décès, etc. Là, vous avez acheté un bien et vous allez le laisser à vos héritiers en cas de décès remboursé par l'assureur. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire et les gens n'y pensent pas.
Le message, c'est l'assurance emprunteur, dans le cadre d'un emprunt immobilier,
c'est de la prévoyance.
La meilleure prévoyance.
C'est la meilleure.
Presque la meilleure prévoyance.
Et même, j'ai même envie de dire que c'est l'une des meilleures, sans faire de généralité et être exclusif, c'est l'une des meilleures prévoyances en France parce que vous investissez et vous êtes garanti, en fait.
Merci beaucoup Albert Dantoir et Nalo qui nous accompagnaient sur Radio Patrimoine. Merci d'avoir été là dans Cœur de Patrimoine. Et tout de suite, on continue bien évidemment à vous accompagner dans ce monde de la gestion de patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on continue bien évidemment à vous accompagner et on va parler d'une initiative proposée par MIMCO. Bonjour Paul-Éric Perchaud.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, directeur de l'immobilier et de la dette privée de MIMCO Asset Management. D'abord, histoire de faire les présentations, j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur MIMCO ?
Oui, tout à fait. Alors MIMCO est une société d'investissement européenne. C'est une société qui est basée à Luxembourg, à Berlin et à Paris, donc via sa filiale MIMCO Asset Management, qui est une société de gestion agréée par l'AMF. On totalise à peu près une cinquantaine de collaborateurs sur les trois bureaux et on gère environ 1 milliard d'euros d'actifs et de projets immobiliers à forte création de valeur sur toute l'Europe.
Alors ce monde de la gestion immobilière notamment, il est... pas mal chahuté ces derniers temps. Vous, quelle est un peu votre stratégie ? Qu'est-ce qu'on peut dire de MIMCO Asset Management, des valeurs qui vous guident ?
Alors nous, les valeurs qui nous guidaient avant la crise, pendant et qui nous guideront après, sont des valeurs opportunistes. On est sur un créneau en fait, immobilier à forte création de valeur, donc value-add. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on essaie toujours de bien acheter, de bien savoir gérer. On a toujours des opérations avec des autorisations, des travaux, donc vraiment une création de valeur. Savoir bien les louer, ensuite bien les vendre. Donc ça, ces piliers, en fait, là, étaient existants avant, existeront toujours.
Ils restent d'actualité.
Ils resteront toujours d'actualité. Et le deuxième, j'ai envie de dire, le deuxième pilier, la deuxième partie de l'ADN de MIMCO, c'est qu'on a pour ambition d'offrir à une clientèle privée un accès simplifié au private equity immobilier. Et donc, à ce titre-là, on se développe et on développe de nouvelles offres pour s'adapter justement aux évolutions de ce marché-là.
Et c'est pour ça qu'on se voit ce matin, parce que vous élargissez votre offre.
Tout à fait. Historiquement, le MIMCO Asset Management et le groupe MIMCO étaient positionnés sur du private equity, donc immobilier, Donc, créer des opérations immobilières dans lesquelles on fait rentrer en fait des investisseurs en actionnaires via des fonds ou via des club deals dédiés. Et en fait, aujourd'hui, on souhaite proposer de nouveaux produits parce que c'est aussi des demandes que l'on a de la part de nos partenaires CGP, CIF, pour par exemple des opérations également en dette privée, c'est-à-dire que des investisseurs ne veulent plus seulement être actionnaires, mais également être créanciers, être en obligataire. On a aussi beaucoup de demandes de la part d'investisseurs privés pour des tickets en dessous de 100 000 euros. Donc aujourd'hui, les club deals de private equity étaient réservés à une clientèle plutôt...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était plutôt sur les murs d'un hôtel, sur,
sur des
opérations, tickets d'entrée qui étaient conséquents.
Bah, le ticket d'entrée sur des opérations de private equity était au-dessus de 100 000 euros et était plutôt réservé à des familles fortunées ou à des institutionnels. Et en fait, on est dans une tendance de marché où on souhaite un petit peu comme ça élargir en fait le public qui a accès à ces opérations. Ça nécessite un environnement réglementaire spécifique, car tout ça est encadré par l'AMF. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Mimco et notamment avec notre nouvelle plateforme.
Et du coup, vous vous adressez à des CGP, enfin c'est quoi, c'est du B2B2C, c'est du B2C,
c'est... Tout à fait, c'est du B2B2C, c'est-à-dire que nous, nos clients sont avant tout les CGP CIF avec qui on travaille depuis de nombreuses années et avec qui on est en partenariat et à qui on propose en fait des nouvelles solutions qui correspondent aussi, d'où le B2B2C, ben, aux attentes de leurs clients qui, on le voit dans un marché un petit peu plus en crise, ben, veulent avoir accès à un petit peu de dette obligataire parce que ça donne un petit peu plus de sécurité sur son investissement. Ou certaines personnes, dans une période, par exemple, où on réoriente un petit peu d'épargne, par exemple, sur des SCPI vers d'autres produits immobiliers, bah, ces gens-là sont en attente de, par exemple, un peu plus de TRI, donc cherchent des opérations un peu plus value-add.
Quels sont les avantages de cette nouvelle plateforme ? Parce que, en fait, presque naturellement, vous auriez pu présenter de tel ou tel produit sans forcément créer une nouvelle plateforme, une nouvelle infrastructure ?
L'avantage principal, c'est la simplicité, l'efficacité et la rapidité. La simplicité, c'est parce que c'est une plateforme entièrement digitale, donc ça permet de renseigner toutes les informations de ses clients. Et si on fait plusieurs investissements, bah, ces informations, elles sont déjà dans l'outil. D'accord. Ensuite, rapidité, pourquoi ? Parce que, notamment dans le marché immobilier actuel, il faut savoir être rapide. Nous, comme je l'ai dit, Mimco, on est sur un créneau value-add, donc on est sur des opérations à forte création de valeur. Donc si on veut bien acheter, il faut monter un club deal immobilier en très peu de temps. Un club deal immobilier sur une opération de marchand de biens, une réhabilitation d'un immeuble parisien par exemple, il faut savoir mobiliser le capital parfois en moins de 3 mois. Et donc ça nécessite que tout le processus, à la fois sur la partie immobilière, mais également sur la partie levée de capital, soit extrêmement efficace, extrêmement rapide. Et donc cette plateforme digitale, c'est ce qui nous permet de lever plus rapidement l'argent et de manière plus fiable également.
Et du coup, si on fait un schéma, enfin, on ne va pas rentrer totalement dans le détail, mais en gros, le client, il se connectera directement sur votre plateforme ou il passe tout le temps par son CGP ou au contraire, vous proposez un produit en marque blanche ? Comment ça se passe ?
Alors, il passe par son CGP qui a un code dédié. Donc, c'est-à-dire que techniquement, le client ensuite peut se connecter directement, mais dans tous les cas, il sera référencé pour le CGP qui l'aura amené. Donc nous, c'est un outil, et voilà, nos partenaires sont avant tous les CGP, donc c'est un outil qui est aussi sécurisant pour eux, puisque au travers de l'outil informatique, ils arrivent à suivre aussi la vie de leurs clients.
Pourquoi lancer cette plateforme du coup ? C'est vraiment aussi une réflexion dans le groupe d'une stratégie de développement aussi à venir peut-être ?
Tout à fait. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que notamment, ça a été accéléré avec la crise immobilière qu'on a vue. C'est on a vu les investisseurs se détourner un petit peu de la collecte sur les fonds ou sur les SCPI. Et en fait, on a une tendance qui est assez forte sur des club deals, c'est-à-dire je veux savoir où je flèche mon investissement. C'est ce qu'on constate dans toutes les périodes de crise. On a besoin de se rassurer sur la qualité, l'emplacement du produit immobilier, mais également sur l'opérateur. Et donc, du coup, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de se dire qu'il fallait qu'on développe un produit qui nous permette d'être plus réactif et plus rapide vis-à-vis de nos CGP et vis-à-vis de nos partenaires opérateurs ou des opérations sur lesquelles on est engagé pour lever plus rapidement du capital. On a conscience qu'il y a des opportunités à prendre sur le marché aujourd'hui sur toutes les typologies d'actifs. Et c'est pour pouvoir aller chercher ces opportunités qu'on a développé cette offre.
Si je schématise... Entre des club deals inaccessibles pour le commun des mortels et du crowdfunding basique, voilà, on se situerait un peu entre les deux avec cette offre-là.
On se situerait tout à fait entre les deux, avec la différence principale par rapport, par exemple, à, vous citiez, aux plateformes de crowdfunding, c'est que Mimco est systématiquement engagé dans ces opérations. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement une plateforme intermédiaire entre des investisseurs et des porteurs de projets. Nous sommes systématiquement engagés dans les projets qu'on va financer, qu'on va proposer sur notre plateforme.
Eh bien, voilà une nouvelle offre détaillée aujourd'hui par Paul-Éric Perchaud. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine sur Radio Patrimoine pour présenter tout cela pour Mimco, donc Asset Management. À très vite.
Au revoir.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on accueille maintenant un ponte de ce monde patrimonial en la personne de Philippe Bayot. Bonjour Philippe.
Bonjour Cédric.
Merci d'être présent aujourd'hui sur Radio Patrimoine et je suis très honoré de vous avoir dans Cœur de Patrimoine. On va essayer de parler ensemble de cette gestion de patrimoine et de réfléchir autour de ce qu'elle apporte comme valeur ajoutée. Est-ce qu'on arriverait à définir justement cette valeur ajoutée de la gestion de patrimoine? Est-ce qu'on peut déceler 1, 2, 3, 4 points, je ne sais pas, qui seraient les plus saillants dans cette gestion de patrimoine?
En simplifiant pour essayer de l'approcher, donc il y a 4 grands plans de valeur ajoutée que peut apporter la gestion de patrimoine, que doit apporter une gestion de patrimoine réussie. Le premier, c'est le cœur de cette gestion de patrimoine, c'est ce que j'appelle la maïeutique. C'est la mise à jour des besoins non présumé, non anticipé, mais réel de chaque client. Et là, ça doit vraiment s'inscrire dans une véritable démarche socratique d'interrogation du client pour définir tous ses réels besoins. Une fois ces besoins mis à jour et non présumés, mais réellement mis à jour, alors grâce à l'expertise juridique et fiscale du conseiller, celui-ci va pouvoir accroître la probabilité d'atteindre effectivement les objectifs qui ont été mis à jour dans un premier temps. Et le troisième temps de la valeur ajoutée de la gestion de patrimoine réussie, c'est tout ce qui est adaptation des produits et des services parfaitement adaptés à la morphologie patrimoniale du client. La difficulté qui est très grande, c'est que ces trois plans véritables de valeur ajoutée que peut apporter donc au client ne génèrent pas ou pas significativement des revenus et surtout des revenus récurrents. Donc il y a une distorsion entre les sources de valeur ajoutée apportées par la gestion de patrimoine et les sources de revenus de cette gestion de patrimoine qui sont...
Vous voulez dire que tout le monde n'y trouve pas forcément son compte, c'est ça? C'est-à-dire que le conseiller, lui...
Voilà, il y a un véritable porte-à-faux parce que le conseiller va, dans ses trois premiers plans, apporter une véritable valeur ajoutée au client, mais ne connaîtra pas une rémunération récurrente ou significative. Et la difficulté est encore accrue que la source formidable et significative de revenus de la gestion de patrimoine découle de l'allocation d'actifs. Or, dans mon esprit, mais là ce sera un débat, cette allocation d'actifs n'apporte pas une véritable valeur ajoutée au consommateur, à l'épargnant.
Expliquez-nous un petit peu justement, par exemple, quelle est la valeur ajoutée de cette matière financière?
Alors, il y a deux plans, encore une fois, parfaitement distincts. C'est l'allocation globale d'actifs. Comment, une fois que j'aurai défini vos objectifs patrimoniaux, comment mettre en œuvre une stratégie financière. Alors là, c'est fondamentalement le principe de diversification qui doit anticiper nos choix financiers. Pour l'essentiel, en simplifiant, sauf pour les très grosses fortunes françaises, le cœur d'un patrimoine français, c'est la résidence principale.
Bien sûr.
Le cœur des revenus d'un Français, c'est soit sa retraite pour les plus âgés, soit son revenu. Donc tous ces actifs ou revenus sont corrélés à l'économie française. Et il convient donc, dans un esprit de diversification pour réduire le risque global encouru par le patrimoine considéré, de diversifier essentiellement à l'étranger, pour simplifier.
Ah oui.
Et donc, il faudrait que cette allocation globale d'actifs, dans une véritable approche patrimoniale globale, porte sur des actifs détenus à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Japon, je ne sais pas, je ne suis pas un financier. Ça, c'est le premier plan de l'allocation d'actifs qui est très peu pratiqué et surtout qui ne va pas générer, encore une fois, de rémunération pour l'intermédiaire. Et le dernier plan, très important aussi, c'est qu'une fois un actif défini pour faire l'objet d'un investissement à long terme, supposons par exemple des actions américaines, il va falloir donc choisir le support de gestion de ces actions américaines et, pour apporter une véritable valeur ajoutée, donc battre l'indice. Et là, la difficulté est grande parce que si je prends l'exemple du Standard & Poor's 500, donc l'actif, l'indice le plus large des actions américaines, sur 10 ans, 85% des gérants d'actifs sont battues par l'indice.
Oui, on dit donc, qu'il est très efficient, trop efficient même parfois.
Et donc, ça veut dire que le gérant d'actifs n'apporte pas de valeur ajoutée réelle au client, par opposition à un ETF, et que dans le même temps, le conseiller en gestion de patrimoine ne va pas apporter une véritable valeur ajoutée à son client parce qu'il n'aura pas battu l'indice. Vous voyez, donc le porte-à-faux est complet et donc conduit à devoir réfléchir comment, pour générer, pour pérenniser la gestion de patrimoine, comment modifier les bases de sa rémunération actuelle.
Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un moyen, selon vous, que finalement, on... je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais qu'on aligne finalement les intérêts du client et celui du conseil ?
De toute façon, sur la longue durée, si nous continuons à ne pas être en alignement, en corrélation, ce ne sera pas pertinent, ce ne sera pas pérenne. Et donc, d'ailleurs, au niveau européen, vous avez que notre directrice, notre commissaire européen préféré, réfléchit beaucoup à la transformation des rémunérations sur en cours actuelles à une rémunération sur honoraire, mais d'une certaine manière, elle a compris la difficulté auquel se heurte la gestion de patrimoine. Et donc, il faudrait vraiment dire tout ce qui est la maïeutique doit générer une véritable rémunération. Tout ce qui est expertise et juridique et fiscale doit également générer une rémunération significative. Et pour avoir été avocat dans le passé, par exemple fiscaliste, les fiscalistes sont habitués à prendre des honoraires correspondant à cette valeur ajoutée apportée au client. Quant au choix des produits financiers et des services, de la même manière, ils doivent générer, parce qu'ils apportent une véritable valeur ajoutée au client, ils doivent générer une rémunération. Mais aujourd'hui, très clairement, la pratique de marché et la culture des clients ne facilitent pas cette approche-là, même si quelques conseillers en gestion de patrimoine très talentueux arrivent à prendre des honoraires. Mais pour la partie financière, il est clair que la pression va être très très grande à la baisse de cette rémunération.
Donc, on voit le débat entre gestion active et gestion passive.
Voilà, ou que la CPR qui réduit les rémunérations internes au SICAV ou fonds communs de placement, tout cela a conduit à réfléchir, donc à transférer la valeur ajoutée et surtout la prise de rémunération sur le cœur, donc la maïeutique, l'expertise juridique fiscale et le choix des produits financiers.
Quelques éléments pour réfléchir autour de cette gestion de patrimoine. Merci beaucoup d'être venu nous porter cette parole, Philippe Bayot, donc enseignant à l'Université Paris 2 et grand esprit de ce monde de la gestion de patrimoine. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence ce matin et à très bientôt sur Radio Patrimoine.
Merci Cédric.
Nous on se retrouve dans un instant.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
On continue à vous accompagner dans ce monde de la gestion de patrimoine et on s'intéresse bien sûr au marché. Pour ce faire, Sandrine Covin est avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être présente sur Radio Patrimoine, au cœur de patrimoine, directrice de la gestion collective dotée à capital. Difficile de parler marché en ce moment sans parler de banque centrale. C'est vrai qu'on aurait pu aussi gloser sur les niveaux parfois très élevés de nos indices, mais nos banques ont encore une fois pris le devant de la scène. Traditionnellement, le schéma est assez simple. C'est la Fed qui tire le premier ou la première et c'est la BCE qui embraye. Sauf que cette fois-ci, il semblerait qu'on veuille prendre l'initiative. Quel est votre sentiment de voir comme ça la BCE qui s'émancipe ?
Eh ben, ce serait la première fois.
C'est historique.
Exactement, historique. Mais après, il y a un contexte qui explique tout ça. Parce que quand on regarde les États-Unis, la situation aujourd'hui, elle est que l'économie, elle est très résiliente. On a un marché de l'emploi qui se porte toujours très bien. Je regardais les chiffres du FMI. Là, on a un ratio de postes vacants contre chômage de 2 aux États-Unis contre 1 en Europe. Donc, vous voyez là déjà la différence sur le marché du travail. Après, on voit que les chiffres sur la consommation et les chiffres d'inflation restent aussi élevés. On est autour de 3-3,5% sur l'inflation aux États-Unis. Et on n'est pas dans la cible de ce que vise la Fed. Ouais.
Même par si contre, elle a 2 objectifs, elle regarde quand même aussi beaucoup cette inflation.
Hein. Exactement, exactement. Donc, c'est vrai qu'on avait commencé l'année en se disant... Au mois de mars, la Fed va démarrer et puis il va y avoir 3-4 baisses de taux. On est en avril et on voit qu'à chaque fois, c'est repoussé et qu'effectivement, il semblerait que la BCE prenne de l'émancipation. Mais encore une fois, il y a des raisons derrière tout ça. On a un contexte économique qui est totalement différent entre les États-Unis et l'Europe.
Alors justement, ce contexte économique, il a pas mal fait réagir, notamment Bruno Le Maire, qui, on le sait, doit présenter ses trajectoires budgétaires et qui nous a dit clairement ou presque que la baisse des taux, ça devrait insuffler un regain de croissance dès la fin de l'année. Et puis l'an prochain, il faut y croire. Il a raison de penser que un coup de pouce, on va dire, de Christine Lagarde serait bénéfique pour son cas à lui ?
Oui, en tout cas, les marchés l'attendent. Parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que des investisseurs que vous connaissez hein, disent qu'il faut revenir sur les small et mid cap. Et force est de constater qu'elles ont du mal. Alors, elles ont quand même commencé à reprendre un peu de vigueur. Mais on voit que la collecte sur cette classe d'actifs, elle est difficile. Il y a un problème de liquidité toujours. Et à mon avis, c'est ces histoires de problèmes de financement. Parce qu'on sait qu'il y en a certaines qui vont avoir des difficultés pour se refinancer. Donc, une baisse des taux, oui, ça sera très, très favorable pour
le tissu économique et donc pour la croissance.
Exactement, exactement.
De l'autre côté, vous le disiez, c'est vrai que la Fed, on l'attendait, elle n'est pas là. Et pourtant, elle a un calendrier quand même serré, parce qu'on rappelle qu'il y a toute petite élection qui se profile aux États-Unis. Et qu'en parallèle, elle a une situation géopolitique qui est quand même compliquée. Vous me direz la BCE aussi, mais voilà. Quel peut être le calendrier de la Fed confronté à ces problèmes géopolitiques avec ces questions politiques ? Parce que quand on lit les commentaires de la Fed, on lit quasiment rien sur la géopolitique et on lit quasiment rien sur la politique tout court. On a l'impression qu'elle ne regarde que des indicateurs économiques, cette Fed.
Oui, ça manque un peu de transparence, mais ouais. Je pense qu'ils ont peur de faire une erreur de politique monétaire et justement dans le cadre d'une année d'élection. Encore une fois, la géopolitique, je pense qu'elle touche beaucoup plus l'Europe que les États-Unis. Malheureusement, la géographie n'est pas en notre faveur. Je rappelle deux points de tension aujourd'hui en géopolitique. Il y a l'Ukraine. Alors certes, ça fait 2 ans que ça dure, mais il n'empêche que la situation, elle est quand même toujours compliquée, même s'il n'y a pas de risque encore à ce stade de généralisation du conflit. Mais on sait que c'est problématique, nous, pour nos approvisionnements en énergie. Et le deuxième conflit, qui est au Proche-Orient, jusqu'à présent, est pas, effectivement, il n'y a pas d'escalade, ça reste mesuré. Il ne faudrait pas qu'il y ait une petite étincelle, parce que là, encore une fois, s'il y a un problème sur le marché du pétrole, ça va être surtout en Europe, je rappelle que les États-Unis oui. sont quasiment autosuffisants aujourd'hui. Donc, du côté géopolitique, je n'ai pas le sentiment que les États-Unis, eux, aujourd'hui, leur feuille de route, c'est leur cible des 2%. Moi, j'ai un doute sur ce 2%. Ouais. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans le passé, il y a eu toute une relocalisation de l'industrie post-Covid. Et ça a été une grande politique menée par Biden. Et cette relocalisation, elle fait qu'aujourd'hui, il y a une hausse des coûts de production. Donc, qui dit hausse des coûts de production, bah, forcément, ça vient données de l'inflation. Ça, c'est un premier point. Après, on voit aux États-Unis, comme je vous le disais, on a à un moment donné dit que l'excédent de cash des ménages, justement, qui avait été emmagasiné depuis le Covid, il allait s'amoindrir. Pour l'instant, ça ne se voit pas beaucoup, hein, parce que vous regardez les chiffres de consommation, ils restent extrêmement solides. American Express a publié ces chiffres, ils étaient encore très bons, illustrant le fait que bah, ça continue de consommer.
Dans ce contexte qu'on décrit depuis quelques minutes, Sandrine, qu'est-ce qui pourrait se passer du coup sur les marchés ? Ça pourrait favoriser finalement notamment nos marchés européens, parce qu'on voit le CAC, on s'est presque pris à rêver des 9000, alors que pendant des années, on a eu du mal à rallier notre ce qui était notre sommet historique à l'époque. Comment est-ce que vous les voyez, nos marchés ?
Alors, historiquement, c'est souvent les États-Unis hein, qui sont mieux positionnés. Maintenant, quand on regarde les valorisations aux États-Unis sont très élevées, même, je dirais, tendues. Et alors, c'est toujours pareil, hein, c'est disparate. Mais on a vu la semaine dernière quelque chose d'intéressant. Le S&P a presque baissé de 5%. C'était la plus forte baisse depuis, je ne veux pas dire de bêtises, mais depuis un petit moment. Et là, effectivement, avec le contexte de détente sur les taux qui peut se faire dès le mois de juin en Europe, il peut effectivement y avoir une fenêtre de tir là, pour le marché européen qui se redresse.
Vous nous avez dit tout à l'heure un petit mot des petites et moyennes CAPI, enfin des petites et moyennes entreprises et de leur financement. Et c'est vrai que quand on regarde nos marchés, alors singulièrement en Europe, mais c'est vrai aussi sur d'autres cotes, on a une moindre valorisation de ces petites et moyennes CAPI qui pourtant ne sont pas non plus des inconnus. Hein. Il y a beaucoup de leaders mondiaux, etc. Ça veut dire que s'il y a cette baisse de taux, S'il y a tout ce qu'on s'est dit, il y a une capacité de rattrapage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, considérer les petites et moyennes capis, ça vous semble un pari pas complètement fou ?
Non, je pense que c'est pas un pari fou. Alors, il faut continuer d'être sélectif, hein, toujours dans ses choix d'investissement, même s'il y a une détente et que le coût de financement va baisser, il restera quand même plus élevé que ce qu'il a été dans le passé. Et il me semble quand même qu'il faut se concentrer sur des sociétés aujourd'hui qui ont des business models solides, qui ont déjà une situation financière qui n'est pas trop tendue, qui ont des échéances de refinancement plus éloignées, plutôt que d'aller sur celles qui sont un peu aujourd'hui, entre guillemets, en mode survie. Mais il y a de très beaux dossiers aujourd'hui qui sont sous-valorisés et qui sont intéressants à regarder.
Ça veut dire que là, période de publication de résultats aussi, qui a commencé, ce sont tous ces critères-là qu'il faut aller pêcher dans les publications, de regarder un petit peu le business model, l'endettement, etc., pour finalement faire son choix.
Alors, la situation financière d'un trimestre à l'autre, à moins que ce soit des gens qui mangent beaucoup de cash, en général, on a des... Mais ce qui avait été important de voir, c'est effectivement la top line, voir comment ça se passe du côté de la croissance. Et il y a de très belles boîtes dans les small et mid, pas que dans la tech, hein, parce qu'on cite souvent la tech, mais il y a des belles boîtes dans la santé.
Enlever ses œillères et arrêter de regarder les X magnifiques. Quoi. Ouais,
exactement.
Ou les connexes.
Mais après, il y a des belles boîtes de tech en Europe qui sont très peu valorisées. Et effectivement, il faut regarder. Il y a différentes choses à regarder. Il y a la feuille de route sur ce qu'ils vont délivrer sur les prochaines années, bien entendu ce qu'ils vont délivrer à court terme, mais aussi ce qu'ils vont délivrer sur les prochaines années et la confiance qu'on peut avoir sur le management et sur le fait qu'ils ont déjà quand même un track record qui est là pour donner confiance. Mais je pense qu'effectivement il y a des beaux dossiers aujourd'hui qui demandent aujourd'hui vous avez des dossiers qui sont décotés de 30% voire même plus de 30%. Ouais. C'est une opportunité d'achat aujourd'hui.
Et justement, pour reboucler sur nos mid and small, c'est parfois plus simple, même s'il y a moins de recherches, mais d'avoir accès aux dirigeants, à l'info. Et on connaît peut-être aussi même mieux ces boîtes de proximité.
Ah oui, en tout cas, nous, pour professionnels de la gestion, on a effectivement des contacts privilégiés avec ces managements-là, des contacts réguliers. Ils sont obligés d'insuffler justement cette confiance dont je parlais. Et effectivement, par rapport à des gros groupes où tout est bien normé au niveau de la communication, et puis au final, vous apprenez rien de vraiment. Ça. Là, vous avez le potentiel d'aller dénicher ce qu'on appelle la pépite. Et c'est ce qui fait toute la différence dans un portefeuille aujourd'hui.
Merci beaucoup, Sandrine.
Merci, Corin. Cédric.
J'espère vous retrouver très vite.
Et moi aussi.
Sur Radio Patrimoine pour commenter ensemble cette vie des marchés et de la gestion. Merci d'être passé nous voir dans Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on va aborder à présent un sujet que l'on aborde rarement en gestion de patrimoine et on a peut-être un peu tort et on va essayer sur Radio Patrimoine et dans Cœur de Patrimoine de régulièrement vous éclairer sur, on va le baptiser pompeusement la philanthropie, mais il n'y a pas que ça et on va en parler avec Valérie Aubier. Bonjour Valérie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, fondatrice de Sustainable Factory. On va donner du sens finalement à notre patrimoine avec vous et on va commencer en essayant de donner peut-être une définition. Qu'est-ce que donner du sens à son patrimoine ?
Alors, tout d'abord, chaque investisseur donne naturellement du sens à son patrimoine. Hein. Donc, il a un projet, donc il va constituer une épargne, il va acquérir un bien immobilier, il va vouloir transmettre à ses proches, il va vouloir développer son entreprise. Donc là, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est le fait pour un investisseur de considérer que son patrimoine va contribuer à la résolution à son échelle.
Ouais, on ne va pas essayer de donner de leçons, etc. Chacun...
Voilà, à sa mesure, des défis à résoudre, des défis environnementaux et sociétaux. Donc là, on est sur le sens et c'est un engagement qui va se traduire dans le choix de ses placements financiers, mais aussi dans le choix des associations qu'il va aider, donc de la partie philanthropique. C'est aussi montrer que ses valeurs, ses convictions, son ADN aussi individuel ou familial peuvent aussi se transmettre dans le cadre de la gestion de son patrimoine.
Est-ce que c'est nouveau? Parce que, bon, ça fait quelques années que je grenouille un petit peu dans ce monde médiatique de la gestion de patrimoine. Et c'est donc une part de responsabilité que j'ai. Mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu, mais qu'on n'en parle pas assez. Et puis que ça commence à émerger de plus en plus. Avant, la philanthropie, c'était presque le parent pauvre de cette gestion de patrimoine. Et maintenant, il y a plein d'initiatives qui semblent se faire jour. Est-ce que vous avez l'impression que c'est... Voilà, que ça a pris une deuxième jeunesse, que c'est un phénomène un peu nouveau.
Alors en fait, moi je constate que les investisseurs, ils ont une recherche d'alignement et de cohérence, de façon globale. Il y a une hybridation des solutions. Avant, il y avait deux mondes. Il y avait le monde où vous aviez votre gestion financière, de placement financier, où vous recherchiez exclusivement de la performance. Ouais. Et puis, de l'autre côté, vous étiez donateur, créateur d'une fondation, enfin bon, bref, voilà. Et en fait, aujourd'hui, ces deux mondes-là convergent, ne sont plus étanches et considèrent le patrimoine dans leur globalité. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est importante et qu'on constate tous, c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle a la recherche de cette cohérence. Elle ne trouve pas dans les offres classiques, de placement classique du patrimoine, des réponses complètement adaptées. Et cette nouvelle génération, elle est avide de solutions. Elle cherche du sens à son épargne. Elle veut comprendre les circuits de l'argent. Ça, c'est très important. On voit dans les nouvelles
offres. Savoir où elle investit, à quoi ça sert.
Voilà. Est-ce qu'il va y avoir, quel va être le bilan carbone, etc. Et puis aussi, dans le domaine associatif, hein, puisque on parle du patrimoine au sens large, hein, à la fois placement financier et à la fois placement philanthropique, eh bien, elle va aussi regarder quelle association soutenir.
Et ça veut dire que... Il n'y a que les jeunes, entre guillemets, qui s'y intéressent ou tous les épargnants, tous les investisseurs sont concernés?
Alors, tous les investisseurs sont concernés. Il n'y a pas que les jeunes parce qu'effectivement, eux, en fait, ils sont nés dans une génération et dans un monde, en fait, qui est envahi de défis environnementaux et sociaux, donc, et sociétaux. Donc, de ce fait, ils sont particulièrement impliqués. D'accord. Mais bon, ils embarquent tout le monde, en fait. Hein. Et puis, il y a une définition aujourd'hui de placement financier qui est complètement... qui est pléthore, enfin, avec des offres complètement extrêmement larges, comme tout ce qui est ISR, l'ESG, la recherche d'impact, etc.
Pas.
Donc, en tout cas, moi, je constate que tous les investisseurs que je rencontre se posent cette question. Et ce qu'il faut savoir, pour revenir sur votre question aussi de la philanthropie, c'est qu'il y a aussi un acteur naturel, puisque vous me parliez de est-ce que ça concerne tous les investisseurs, mais oui, en fait, il y a un acteur naturel, hein, ce sont les fondations. Ouais. Les fondations, les fonds de dotation qui ont des actifs qui sont placés, eux, la gestion d'actifs hein, qui va résonner avec leur mission sociale, ce n'est pas une option, c'est la pierre angulaire de l'impact de ces structures.
Alors, eux, visiblement, savent, mais nous, les épargnants lambda, normaux, comment est-ce qu'on procède aujourd'hui, par exemple, dans nos placements financiers, pour avoir une approche un peu plus philanthropique, voilà, comment est-ce qu'on doit procéder quand on a envie de donner du sens à ses placements?
Alors, moi, je considère que la finance, elle peut être créatrice de valeur au-delà de la performance financière. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans cette perspective-là. Et à partir de là, bah, écoutez, il y a un certain nombre de solutions qui existent déjà et qui ont fait leur preuve. C'est le fonds de partage. Vous investissez dans un fonds commun. D'accord. Et puis, la banque vous dit qu'elle abandonne une partie de ses frais de gestion et que vous abandonnez une partie de vos revenus au profit d'une association que cet établissement bancaire va avoir listé et fait la due diligence. Vous avez aussi le microcrédit, hein, bon, qui peut paraître éculé, etc., mais qui est complètement d'importance, notamment dans un certain nombre de pays du monde, où le microcrédit à des particuliers ou à des petites entreprises va complètement changer la donne. Mais on peut aussi donner aujourd'hui à ces placements la connotation ISR, les investissements socialement responsables.
Avec aussi une part... on va dire de flou parfois. On sait qu'il y a des petits débats dans les labels, dans savoir s'il faut faire de l'exclusion, s'il faut faire du best in class. Enfin, je veux dire, c'est pas simple à assimiler pour un épargnant. Il peut se dire oh là là, mais s'ils en sont encore à se battre sur le label à utiliser ou sur qui a raison, je verrai ça plus tard.
Oui, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je le constate avec mes clients. C'est toute la question, c'est de piloter cette complexité. Par exemple, vous savez que dans le label ISR et dans les investissements socialement responsables, donc ISR, on va chercher des critères ESG, donc le pilier environnement, sociale et gouvernementale. Et gouvernement. Ouais. Et en fait, je vais vous donner deux exemples de cette complexité. Le premier exemple, c'est par exemple, vous avez dans votre portefeuille une entreprise qui va faire du retraitement, du recyclage d'huile alimentaire pour que ça devienne du diesel. Bon, sur le pilier E, c'est bon, c'est environnemental. On prend des huiles usagées et on les met, on en le transforme pour faire du diesel. Ouais. Mais si vous faites le bilan carbone aussi de votre portefeuille financier, ce que demandent aussi de plus en plus les investisseurs, bah vous rendez compte qu'il y a quand même une consommation carbone importante pour faire cette transformation. De la même façon, est-ce que les trois piliers ESG sont équipondérés, on va dire ? Bah, pas tout le temps. Et puis, moi, je vais prendre un exemple qui est à l'autre bout du spectre. Par exemple, si vous aviez une entreprise qui recycle des déchets, à nouveau, bon, bah, le pilier E, vous le remplissez à 100%, mais par contre, qui ne respecterait pas les normes sociétales dans un pays où il a sa chaîne de valeur ? Ça, ouais. Et bah, voilà, là, c'est pas concevable. Donc, en fait, c'est vraiment une complexité à avoir et à piloter, à suivre par rapport à une gestion, une charte de gestion familiale qu'on peut mettre en place.
Ça concerne vraiment nos placements financiers. Oui. Il y a aussi l'aspect philanthropique dans l'imaginaire collectif. C'est en clair, je donne quoi.
Oui. Oui.
Comment est-ce qu'on procède là-dedans ? C'est facile, il suffit finalement de trouver une fondation, une cause, une...
C'est aussi, comment dire, on va dire, c'est aussi passionnant, si on prend le côté positif, hein, c'est aussi passionnant que de placer son argent, en fait, de faire de la philanthropie. Parce qu'en fait, c'est une entreprise. Si vous créez votre fondation, vous avez une structure avec un conseil d'administration, une gestion d'actifs, une stratégie philanthropique. La différence entre la philanthropie et les placements financiers, eh bien, c'est l'irrévocabilité. C'est-à-dire qu'un don est irrévocable. Donc, vous donnez, mais vous ne pouvez pas récupérer ces fonds,
non,
les reprendre.
Je me suis trompée.
Voilà, et finalement, je me suis trompée. Alors que sur un portefeuille financier, on peut réallouer. Bon, il peut y avoir aussi, au passage, quelques pertes si vous décidez de vendre toutes vos positions pour refaire complètement votre portefeuille. Mais vous pouvez récupérer votre patrimoine là. C'est différent. On est sur un patrimoine, on va dire, immatériel, qu'on transmet et on va quand même piloter. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit... Qu'est-ce que c'est que le patrimoine dans la philanthropie ? Ça va être l'argent, bien sûr, mais ça va être aussi des dons en nature, mais vos compétences, votre carnet d'adresses. Et vous allez pouvoir aussi, dans la gouvernance, mettre votre famille, vos proches, ou faire intervenir des experts pour les décisions que vous allez prendre.
On a commencé en se demandant ce que ça signifiait que de donner du sens. Et si on terminait sur pourquoi donner du sens ?
Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ne travaille pas dans une ONG ou ne travaille pas dans une entreprise qui est directement liée à la transition. Voilà, une entreprise qui serait en train de faire un procédé miraculeux pour absorber tous les plastiques de la mer. Mais ça permet quand même à chacun d'être utile et de contribuer à sa mesure, d'envoyer dans le cadre de la gestion de son portefeuille financier un signal fort aux entreprises, de dire, bah, voilà, on vous soutient parce que vous avez respecté tel et tel critère. Et puis également de couvrir les besoins qui sont immenses des associations. Et puis, à titre personnel, à titre privé, c'est aussi transmettre cette vision qu'on a du patrimoine à ses enfants. De dire, bah, moi, mon patrimoine, c'est effectivement ouais. De l'immobilier, des placements financiers parce que j'ai très bien vendu mon entreprise, etc. Mais à côté de ça, quand je place de l'argent, je fais attention aux critères environnementaux et sociétaux. Et on a décidé, par exemple, de créer une fondation ou un fonds de dotation.
Bien, merci de nous avoir un petit peu éclairé. On essaiera de suivre ça assez régulièrement. Valérie Aubier, donc, pour Sustainable Factory. Merci d'être venue dans Cœur de Patrimoine.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Comme chaque semaine, on vous a accompagné durant une petite heure pour essayer de gérer au mieux et de mieux en mieux votre patrimoine. Et on se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Très bonne journée.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.